Nous sommes dimanche 10 novembre 2024 et nous sommes très heureux de vous accueillir dans cette émission, le QG de l'actu, votre émission hebdomadaire qui passe tous les dimanches en direct sur Djoliba TV News, en synchronisation avec nos différentes pages digitales, mais aussi les différentes stations FM, notamment celles de Bamako, Sikasso et Ségou. Nous sommes très ravis de vous accueillir dans cette émission qui va se pencher sur trois thématiques, à savoir situation sécuritaire au centre de Mal en Pie. Oui, nous l'avons vu cette semaine, beaucoup de déplacés liés à la situation sécuritaire dans la partie septentrionale, dans le centre du Mali. Et justement, malgré la montée en puissance de l'armée, malgré justement la récupération aussi de la ville de Kidal, en tout cas, le centre est en train de payer un lourd tribut compte tenu de la situation sécuritaire dégradante dans cette partie du pays. Nous allons revenir sur cette actualité avec nos différents invités. Deuxième sujet de ce débat, congrès du Haut Conseil islamique, ça bloque. Oui, ça bloque car le congrès qui avait été initialement prévu pour les 26 et 27 octobre dernier a été en tout cas reporté pour le 9-10 novembre 2024, laquelle date aussi a été ajournée compte tenu en tout cas d'une situation tendue au sein de ce regroupement islamique. Que faut-il comprendre justement? Qu'est-ce qui bloque justement dans cette structure du Haut Conseil islamique? Nous allons revenir aussi sur cette actualité de la semaine. Troisième sujet de ce débat, États-Unis. Oui, le président Donald Trump qui avait justement été le locataire de la Maison Blanche entre 2017 et 2021, on va retourner justement à la Maison Blanche. Ce serait à partir du 20 janvier 2025. Quel impact pour l'Afrique avec ce retour de Donald Trump à la Maison Blanche? Pour parler de ces sujets, nous recevons sur ce plateau Amin Baba Cissé. Il est journaliste, mais aussi il est le fondateur du Figaro et directeur de la radio Sahel. Monsieur Baba, Amin Baba Cissé, bonsoir.
Bonsoir, monsieur Traoré. Merci pour l'invitation. Bonsoir à mes co-débatteurs. Je me sens souvent esselé parce que je comprends que c'est deux grands hommes qui sont souvent dans des secrets de la République. Bonsoir aussi à tous les téléspectateurs.
Il faudrait certainement apprendre avec eux. C'est le jour d'être en tout cas avec ces différentes personnalités. Évidemment, nous sommes avec également une autre habitude de ce plateau, Cheikh Omar Soumano. Il est le coordinateur du baromètre, mais aussi président de l'Organisation des jeunes patrons du Mali et du Sahel. Monsieur Soumano, bonsoir.
Bonsoir Omar, bonsoir à mes co-débatteurs. Bon, je pense que tu es aussi dans les secrets de Dieu, cher ami. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Djoliba News TV du Mali et de la diaspora. Donc, merci de l'invitation.
C'est un plaisir, M. Soumano. Installez-vous. Troisième invité de ce débat, Abdallah Yattara, est notre habitué de ce plateau. Il est consultant, formateur, mais aussi membre du parti Yelama. M. Abdallah Yattara, bonsoir.
Bonsoir, M. Traoré. Merci pour l'invitation. Bon, quand ABC dit que nous sommes dans les secrets de Dieu, quand les journalistes disent, c'est comme si on lâche la propre l'ombre.
Avec qui Abissi, c'était un provocateur, il est toujours dans la provocation, vous le savez.
Merci. Et bonne émission à tous.
Merci à vous aussi, M. Abdallah Yattara, pour votre constante fidélité et disponibilité dans cette émission. Je disais tantôt la situation sécuritaire dans le centre qui se dégrade de jour en jour. Oui, justement, le centre qui échappe, peut-on dire ainsi, au contrôle des autorités maliennes, car cette semaine aussi, la ville de Banyangara et alentour, justement, ont fait les frais de l'insécurité avec des déplacés ça et là, des récoltes malheureusement qui ont même été brûlées. Monsieur Abdallah Yattara, vous suivez cette actualité dans le centre du pays, parce que vous n'êtes pas aussi très loin du centre, pour quelqu'un qui en tout cas habite à Marakala, voilà, votre ville natale si je ne m'abuse. Qu'est-ce qui se passe général? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, monsieur Abdallah Yattara? Que savez-vous justement de la situation sécuritaire au centre du pays?
Je crois que, merci pour la question, monsieur Traoré. Très honnêtement, ça ne surprend pas trop, moi personnellement, parce que depuis le début de cette crise 2012 jusqu'à aujourd'hui, une crise multidimensionnelle, du nord, le conflit s'est transporté au centre. Et aujourd'hui, Banyangara, depuis Souibeka, je crois que cette région a connu de sérieux problèmes. Et je profite de l'occasion quand même pour remercier feu le président Ibrahim Boubacar Keïta, qui au moins a fait une visite dans ces villages incendiés, dans ces villages dévastés, pour apporter le message de l'État, le soutien de la nation à l'époque à ces villages-là. Et aujourd'hui, la situation est critique. Critique au moment où on pensait que la sécurité était en réalité tout acquis avec la transition militaire. mais on se rend compte aujourd'hui que c'est autre chose au centre. Et Banyangara pleure, Bankas pleure. Et pratiquement, j'ai dit, toute la région d'Erdogan pleure, pratiquement. Et ce qui m'a un peu écœuré, quand on entend le discours des forces vives de la nation, l'autre jour, ils ont fait ce qu'on appelle une marche patriotique, accompagnée de tous les élus locaux vers le gouverneur. Et en conclusion, au mémorandum qu'ils ont remis au gouverneur, enfin, ils citaient, le porteur du message citait, je cite, « Donnez-nous le droit de vivre. Donnez-nous le droit à la sécurité. » C'est par ces deux phrases-là qu'il a terminé son discours, en remettant le mémorandum au gouverneur. Ce qui montre en réalité la situation dans laquelle la population se trouve. Et dans son discours, il a reconnu implicitement que toutes les promesses de sécurisation sont restées caduques. Il a reconnu aussi dans son discours, il ne tient en réalité qu'à l'application de la proposition du comité d'experts de la population de Banyango. C'est tout ce qu'il demande, c'est tout ce qu'il demande au gouverneur. Mais malheureusement, le rapport de cette commission d'experts de la population ne s'est jamais fait exécuter.
Mais en substance, qu'est-ce que ce rapport dit? Qu'est-ce qu'il demande?
Très honnêtement, je ne connais pas le contenu, mais c'est quand même des pistes qui ont été élaborées par peut-être des dignitaires de Banyangara pour pouvoir sortir de cette crise. Parce qu'ils connaissent mieux le terrain.
D'accord.
S'ils proposent des solutions, c'est qu'ils sont en mesure, ils savent que, peut-être que ces solutions sont de nature à ramener la paix dans la région.
D'accord, on va revenir vers vous rapidement. Monsieur Soumano, oui, qu'est-ce qui peut bien expliquer aujourd'hui cette insécurité grandissante dans le centre du pays?
Bon, merci Omar pour la question. Déjà, je veux commencer par présenter mes condoléances. Personne qui a perdu la vie et puis surtout souhaiter prompt rétablissement aux blessés. Vous savez, une zone, une contrée sujette à une déstabilisation, je ne dirais pas qu'on peut remettre en cause pour autant le principe de la montée en puissance de l'armée. Mais vous savez, la paix, c'est un processus. On peut beaucoup avancer dans ce processus-là, aussi bien que la sécurisation, mais il suffit seulement qu'il y ait une action que les gens essayent de tout remettre en cause. Vous savez, si vous voyez aujourd'hui, les terroristes ont été éprouvés, ont été décimés, si je puis dire, certainement dans les zones de confort au niveau du Nord. Et la zone du Centre, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. L'analyse, ce n'est pas seulement de dire que c'est des djihadistes, mais il y a aussi souvent des conflits interethniques. Et ce n'est pas forcément les armes qui vont régler ça, ou ce n'est pas forcément des stratégies militaires de high level qui vont aussi régler ça. Peut-être le dialogue et ramener les parties à la table de négociation pour une réconciliation pourrait peut-être être la porte de sortie. Vous savez, quand on regarde, il y a plein de choses. Hein. Quand vous écoutez les personnes éprouvées, il a fait cas tout à l'heure de porteurs de messages de ceux qui ont marché. Quand vous allez aussi voir certains rapports ou discuter avec certains d'autres la population, il y a beaucoup d'éléments qui sortent. Mais en tous les cas, moi, je peux quand même saluer la résilience de cette population. Peut-être que nous, à leur place, on allait peut-être quitter. Mais bon, ouais, ils sont déjà là et ils demandent à ce qu'on pense à eux. Et ça, c'est déjà bien. Donc, on salue leur résilience. On salue leur patriotisme. C'est pas parce qu'ils sont dans une situation plus ou moins invivable que pour autant, ils ont désespéré de l'État.
D'accord.
Donc, moi, je pense qu'il faut réfléchir. On peut aller du principe que ce n'est pas forcément les armes qui vont faire taire les armes. Ce n'est pas forcément la violence qui va faire arrêter la violence. Il faut imaginer d'autres méthodes. Et pour moi, le dialogue serait peut-être à privilégier de mon point de vue. Il y a eu beaucoup de pertes de vie. Lui parle de 2012. Et donc, je pense que 2012, maintenant, ça fait 12 ans.
Okay.
Et on n'est pas parvenu à totalement pacifier cette zone. C'est pas, je ne dirais pas que c'est la faute à X ou à Y, mais c'est d'ailleurs la nature des choses. Parce que quand on connaît une déstabilisation et qu'on veut aller vers la pacification et la sécurisation, souvent c'est très difficile. Mais je pense qu'il ne faut pas désespérer, il faut continuer à croire et surtout soutenir les autorités pour le travail qu'ils apportent.
D'accord, oui, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas désespéré, il faut toujours continuer à croire aux autorités. Mais on a quand même l'impression que cette partie, malheureusement, faut-il le rappeler, on a l'impression qu'elle échappe au contrôle de nos autorités actuelles.
Bon, effectivement que cette partie échappe au contrôle des autorités. Vous avez dit au début que... Vous avez donné l'impression au début que c'est des zones que l'armée contrôlait et qui finalement ont été perdues. Ce n'est pas tout à fait ça. Là où l'armée a pu avoir le contrôle dans ce centre du pays, je pense qu'elle est encore là. Il y a des endroits où on a installé des camps. Mais le problème, ce n'est pas les grandes villes. Le problème, c'est beaucoup de villages. Soumano disait tout de suite que les gens sont encore sur place. En fait, à Badiangara, à Koro, aujourd'hui, les gens quittent des localités pour venir dans ces capitales régionales parce que c'est des zones qui sont encore plus ou moins mieux sécurisées. Mais le problème au Mali, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Moi, je n'accuserai pas le pouvoir qui est là, je n'accuserai pas les militaires parce que je fais partie de ceux qui pensent, comme il l'a dit, que la guerre, quels que soient les moyens que vous avez, ce n'est pas ce qui va atteindre... Ce n'est pas ce qui va vaincre ce terrorisme. Je pense qu'eux-mêmes, de plus en plus, commencent à sortir et le dire. Ça aurait pu être au début de la crise. Parce qu'il y a des messagers indépendants, ou pas indépendants, il y a des messagers à qui on a fait porter le discours que, bon, désormais, c'est fini. Le Mali est la superpuissance militaire de toute l'Afrique de l'Ouest. Souvent même, on peut tenir tête à la France, à l'Amérique. Et pourtant, ceux qui sont chargés de porter la communication de l'armée ont laissé faire. On a toujours dénoncé. On a vu des gens qui s'asseyent sur les réseaux et qui étalent, qui expliquent même des stratégies militaires de l'armée, même si ce n'est pas tout à fait le cas. Okay. C'est vrai, la propagande peut jouer un rôle, mais aujourd'hui, c'est ceux qui se retournent contre non seulement l'armée, mais contre aussi ceux qui ont porté ce message-là. Les populations à l'intérieur aujourd'hui, moi, j'échange avec beaucoup de gens. Il y a une zone rouge, il y a des endroits où, plus ou moins, ça va. Là, c'est des négociations qui se sont passées avec ces groupes terroristes. Je veux dire ces groupes terroristes parce que moi je ne parle pas de djihadistes. Ensuite, il y a les autorités qui ont aussi encouragé certains habitants à négocier. Sauf que quand tu négocies, tu ne peux plus être en phase avec les valeurs et les principes de la République. Quand vous acceptez de vous soumettre à ce que les terroristes revendiquent, en ce moment-là, vous êtes presque mis hors de course.
Vous voulez dire par là que les autorités elles-mêmes ont en tout cas encouragé les négociations avec les terroristes pour pouvoir...
Mais il y a des gens qui sont sortis ouvertement pour le dire. Wagé leur a expliqué ça. Quand il y a eu l'attaque de Songo, je me rappelle bien à l'époque là, Wagé est parti pour l'instant. L'État, effectivement, l'État pour l'instant ne peut pas être partout. J'ai vu récemment une sortie aussi de Yamoussa Kamara, l'un des plus proches conseillers du général Assimi. Il est sorti, il l'a dit exactement comme Soumano l'a dit, ce n'est pas les victoires militaires qui vont faire finir la guerre. Donc, il fallait dire ça depuis au début. Okay. Les puissances étrangères qui étaient là, les moyens qu'ils avaient, nous, on ne les avait pas. Mais pourtant, ils n'ont pas pu. Mais est-ce que nous, avec les moyens qu'on va avoir, là, on va... Donc, il y a eu des assises. Toutes ces localités que vous avez vues ont proposé des méthodes, ont proposé des options lors du DIM. Et pourquoi on ne les applique pas? Je vois qu'aujourd'hui, même au sein du gouvernement, même au sein des institutions de la République, on n'est pas d'accord avec le fait de négocier avec ces terroristes-là. Alors qu'on disait à l'époque que c'est la France qui nous empêchait de le faire. Je pense que quoi qu'on dise, il faut ouvrir des vraies négociations.
D'accord.
Et l'une des options... Si ce n'est la seule option, ça va être ça. Sinon, on va continuer tous les jours à tirer des missiles, à tirer des drones.
Okay.
Ça ne va pas résoudre le problème.
D'accord. Oui, M. Abdallah Yattara, et la solution, hein, pour en tout cas revenir sur les propos de Amiba Sissé, passe par les négociations. Ce ne sont pas les armes qui vont faire taire les armes. Est-ce que c'est aussi votre avis?
Forcément, il faut se rendre à l'évidence que sécuriser 1 240 000 km², ce n'est pas encore à la portée d'une force armée de sécurité. Il faut s'y rendre à l'évidence. Nous n'avons pas encore l'effectif nécessaire pour ça. Nous n'avons pas encore le matériel nécessaire pour ça. 1 240 000 km², ce n'est pas 120 000 km². Vous comprenez? Et l'armée a d'énormes défis. Et c'est là sur toute l'étendue du territoire. Et c'est peut-être cette situation qui explique la région, le problème de la région de Bayangara aujourd'hui. Parce qu'on dit les terroristes, en réalité, c'est le groupe pour le soutien à l'État islamique et aux musulmans légitimes qui sévit dans cette région, en réalité, et qui est en conflit avec les Dana Amoussougou et les autres. Effectivement, on l'a dit et redit, même moi, je l'ai dit, que seules les capitales régionales sont sécurisées. Je l'ai dit, c'est sur ce plateau, ah bon, au Mali, seules les capitales régionales sont sécurisées. Quand on va au-delà des capitales régionales, peut-être à la rigueur des cercles, mais au-delà des cercles, c'est problématique. Souvent, pour rallier les villages, c'est un problème. En réalité, c'est de ça que profitent en réalité les djihadistes pour semer la terreur. Okay. Effectivement, toute la population pratiquement de ces villages-là se sont rendus maintenant à Bankass, à Kore et à Banyangara pour se réfugier. Et là, par exemple, c'est la surpopulation là-bas aujourd'hui. Et il faut venir en aide à cette population-là aujourd'hui qui s'est déplacée dans ces capitales régionales et des cercles aujourd'hui. Donc effectivement, le dialogue intermalien a préconisé deux options. Le dialogue avec les mouvements armés et un dialogue doctrinal aussi avec les mouvements djihadistes. Mais je me rappelle qu'Assimi, quand il était en Chine, lors de sa dernière visite, il a dit clairement on ne va pas négocier avec les djihadistes. Il l'a dit clairement. Peut-être à la rigueur avec les mouvements armés, mais Assimi a dit clairement on ne va pas négocier avec les djihadistes. Et cette guerre contre les djihadistes, il faut la faire et on va la faire. Vous comprenez ? Ce qui va à l'encontre d'une des recommandations fortes du dialogue intermalien. Et quand on dit deux semaines après, c'est le ministre, le vice-premier ministre, le ministre de l'administration territoriale, quand il était aux Nations Unies, il a dit clairement, on va négocier. Mais finalement, entre le président de la transition, le vice-premier ministre,
et le premier ministre,
et le premier ministre, et les conditions du dialogue intermalien, où se trouve la vérité. Quand on patouche comme ça, c'est vrai qu'on laisse aussi la population à son propre sort. Donc il faut que ces autorités-là parlent le même langage. Okay. Pour rassurer la population.
D'accord.
Quand les autorités ne parlent pas elles-mêmes le même langage, c'est sûr que ça laisse un peu de désarroi au niveau de la population.
D'accord.
Donc il va falloir que, très honnêtement, moi j'invite très honnêtement et très fortement, très humblement, le général d'armée Assimi, le général du corps d'armée Sadio et les trois autres généraux du corps d'armée à faire une visite officielle dans cette région-là. Pour apporter leur présence physique est très nécessaire. Ça peut rassurer la population. Au-delà des missiles, leur présence physique peut rassurer la population. Il faut prendre même si uniquement c'est dans la capitale de l'Ouest, à Banyangara, à Bankass ou à Koro, je suis d'accord. Peut-être que vous pouvez quand même prendre une partie dans les cercles, dans les villages.
Okay.
Mais leur présence physique est importante et ça peut rassurer la population.
D'accord. Oui, Ambassadeur, avant de faire réagir, M. Soumano, oui, la présence physique des autorités aujourd'hui, nous savons très bien que ça peut-être impacter la population, ça peut-être donner du boom au cœur à ces populations meurtries par ces différentes attaques terroristes. Et on a l'impression que certainement la hiérarchie militaire fait confiance aux hommes qui sont sur le terrain, mais est-ce que cela suffit? Parce que faut-il le rappeler, Assimi Goïta, le général d'armée, il est aujourd'hui général d'armée, mais son homologue du Tchad, on sait très bien que lui, souvent, il est au front, il est en tout cas aux côtés des hommes. Est-ce que cela peut-être basculer un peu, peut-être donner du boom au cœur justement aux hommes qui sont sur le terrain?
Bon, je ne sais pas, les pays ne sont pas les mêmes, les situations diffèrent un peu, et puis les inspirations aussi. Et ce n'est même pas le président de Tchad, même Ibé, un moment, au début, il partait sur le terrain. C'est vrai que Assimi et Tchani, on ne les a pas encore vus sur le terrain. Pourquoi? La question reste posée. Mais il y a une question qu'il a soulevée. Quand Assimi dit qu'on ne négocie pas avec les terroristes, aujourd'hui, on parle du Burkina et du Niger. Pourquoi au Niger, c'est mieux qu'au Mali de plus en plus, parce qu'on a vu des terroristes venir rendre des armes. Le général Tchani, il est en train de négocier avec ces groupes terroristes. C'est des Nigériens. Nous aussi, dans notre cas, c'est des Maliens. Et comme il l'a dit, à partir du moment où ça a été dit publiquement par tous les dialogues, on demandait à ceux qu'on négocie avec ces terroristes. Même si on ne négocie, même les Américains disent qu'on ne négocie pas, mais pourtant ils négocient.
Okay.
Aujourd'hui, on a malheureusement certaines de nos femmes, on a des administrateurs civils, on a des citoyens qui sont entre les mains de ces voyous. Il faut négocier pour pouvoir les sauver. On a vu des militaires faire des vidéos. Chaque fois, ils font des vidéos pour demander à ce que... Donc, quand vous dites que vous ne négociez pas, c'est des gens que vous allez décourager. Il y a des options qu'il ne faut jamais dire ouvertement. C'est des coulisses et je pense que le Mali a les moyens pour ça. Par rapport à ce que vous avez dit comme situation, moi, je ne fais pas de comparaison entre le président... entre le général du Tchad et le général Assimi Goïta. Déjà, lui, avant d'être président, il était au front. En tant que général, il était là, aux têtes du contingent tchadien. Donc, c'est quelqu'un, il est habitué à ça. Et il est comme son père. Son père est mort comme ça. Une attaque terroriste, il faut donner le premier modèle. On a vu même en Éthiopie, le premier ministre, il est parti au front.
Donc ce sont des choses peut-être qui peuvent marquer l'opinion, mais est-ce pour autant la solution? Je suis sûr et certain que Sadio est allé au centre quand il y a eu l'attaque de Songo, comme je l'ai dit. Il est parti, il a dit qu'il n'y aura plus ce genre d'attaque. Okay. Et après, malheureusement, il y a eu des cas qui sont encore pires. Donc ça fait que ça désespère. Il y a des situations malheureusement qu'on ne contrôle pas.
Okay.
Pour l'instant, quand même, je ne pense pas que le président Assimi, qui n'a pas voulu aller à Kidal,
okay,
puisse aller dans une zone aussi dangereuse que Koro ou Bakas.
Très bien. Oui, rapidement, M. Soumano, aujourd'hui, cette citation, je disais, c'est quand même une citation qui n'était pas du tout prévue pour les autorités. On a quand même l'impression qu'elles sont dépassées même. Aujourd'hui, que faut-il faire? Quelle solution s'offre à ces autorités-là afin vraiment de soulager la population du centre du pays?
Bon, moi, je ne dirais pas que les autorités sont dépassées. Vous savez, quand il y a un imprévu, il faut virer les choses avec plus de tact, professionnalisme et discrétion, surtout en matière militaire. ABC disait tout à l'heure, souvent on déplore l'attitude de certains commentateurs sur les réseaux sociaux qui essaient de dévoiler un peu le cercle, parce que certainement ils ont la chance d'être dans les secrets de Dieu et ils viennent d'étaler et ça complique le travail de nos autorités militaires. Je ne vais pas aussi comparer l'attitude du général du Tchad, Mamadou Idriss Déby et le général d'armée Assimi, parce que les réalités ne sont pas pareilles. Peut-être que Assimi dispose d'un certain nombre d'informations qui peut-être déconseillerait qu'il se rende lui-même en tant que chef d'État, parce qu'avant tout d'être militaire, il est quand même chef d'État. Et vous savez, en matière de s'il y a un danger, c'est que c'est les symboles que les groupes terroristes vont rechercher. C'est les symboles. Donc il faut, pour moi, peut-être les choses sont en cours. Éventuellement, ce n'est pas exclu peut-être qu'il se rende, mais pour le moment, les options sont en train d'être étudiées pour voir au meilleur moment quand est-ce qu'il doit partir. Et pour moi, s'il doit aller, je pense qu'il n'y aura pas une grande communication autour, il va peut-être le faire. Et c'est lorsqu'il sera là-bas que les gens le sauront. En tout cas, encore une fois, je me dis certainement, on est en train d'explorer la possibilité.
D'accord.
Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous l'avons dit aujourd'hui, le fait d'aller dialoguer, ce n'est pas être faible en soi, de mon point de vue. La Seconde Guerre mondiale, c'est le dialogue qui a mis fin. La Première Guerre mondiale, c'est pareil. Donc, tous les grands conflits, c'est le dialogue, c'est la négociation.
Est-ce que nous sommes en train de payer ici le prix de notre orgueil?
Bon, je ne dirais pas plus d'orgueil. Peut-être que, je ne sais pas. Pour le moment, je ne sais pas quelles sont les stratégies développées, mais je pense qu'il faudrait plutôt privilégier les négociations.
Okay.
Si déjà, parmi nous, les Maliens, il y a déjà le dialogue intermalien l'a préconisé.
Okay.
Et là, il y a eu beaucoup d'experts qui ont, chacun dans son domaine, on prépare à ces assises-là. Si une des recommandations de ce dialogue intermalien a été d'aller vers la négociation, pour moi, ce n'est pas se dire qu'on est devenu faible. C'est une stratégie, de mon point de vue.
Okay.
Et ça permettra également de préserver beaucoup de choses,
okay,
notamment les vies humaines. Et ce n'est pas des étrangers. Ceux qui sont en train de sévir, qui font, c'est des Maliens, on le voit, même si par ailleurs, on ne sait pas où ils se cachent. Bon, peut-être on ne connaît pas véritablement l'œuvre des intentions, mais je pense que quand il y aura une négociation, il peut toujours, au moins, il y aura une accalmie. Et je me rappelle en 2012, quand on était dans une situation très, très difficile, il a fallu que le président mauritanien vienne pour qu'il y ait l'accalmie, pour que les armes se taisent. Ça a pu arriver. Donc, pour moi, qu'est-ce qui empêcherait que nous puissions mettre fin à tout ça avec le dialogue? Moi, je pense qu'il faut privilégier le dialogue.
Privilégier le dialogue, il est vrai, M. Abdallah Yattara, hein, comme l'a si bien dit M. Soumanou, les réalités ne sont pas les mêmes. En comparaison, souvent, nous disons, je n'ai pas raison, il ne faut pas comparer les généraux qui n'ont pas les mêmes réalités, même s'il y a un qui affronte les dangers en longueur de journée. Hein. Voilà. Et on sait très bien que Ibrahim Boubacar Keïta, paix à son âme, n'était pas un militaire, il n'était pas sur l'état des opérations. Mais en tout cas, à chaque attaque, à l'issue de chaque attaque, il se déplaçait pour aller, en tout cas, réconforter ces populations. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui aux autorités, en tout cas, les sommets de l'État, d'aller à la rencontre de ces populations, sans cesse les rassurer, pour dire en tout cas, des mots qui puissent, en tout cas, les requinquer davantage?
Je dirais juste à mon cher ami Soumalou qu'il est un véritable équilibriste. C'est-à-dire qu'il ne veut jamais prendre position. C'est un véritable équilibriste à ce moment. Je dirais juste que la Deuxième Guerre mondiale, en réalité, on dit le dialogue, mais il faut se rendre à l'évidence que c'est la première bombe atomique lâchée, je crois, si je me trompe, le 6 août 1945. Par ce jeune pilote qui avait écrit le nom de sa mère sur cette bombe atomique, Enou Laguéye, et qui l'a lâché le 6 août 1945 à 7h45. à Hiroshima qui a vraiment obligé d'autres camps à dialoguer. Comprenez? Et vous savez, la présence, je l'ai dit, Assimi Goïta a été sur le terrain, que ce soit au nord ou au centre, mais avant d'être président de la transition. Comprenez? Je l'ai dit ici, sauf erreur de ma part, je n'ai jamais vu un de ces cinq généraux, j'allais dire colonel, je m'excuse, généraux et dans les camps militaires attaqués et repris par nos forces armées de sécurité. Vous savez, la présence physique, même dans une famille, la présence physique d'un chef de famille rassure. Quand il est en danger de la famille, sa seule présence physique rassure. Et Assimi doit comprendre ça en bon malien, hormis même qu'il est président de la transition, hormis qu'il est chef suprême des armées, en bon malien, il doit comprendre que la présence des chefs rassure.
Okay.
Et il dit, même s'il n'apporte pas de solution précise, mais le fait de parler à cette population meurtrie, le fait de parler à cette population désemparée est une note d'espoir.
Okay.
Et c'est ça qu'il doit comprendre. Il prend le risque de se rendre. C'est un officier général. Assimi a affronté pratiquement tous les scénarios possibles dans la guerre. Il ne peut pas avoir peur de la guerre aujourd'hui. Ce n'est pas quelqu'un qui a peur de la guerre. Je le dis, je le conseille. Assimi n'a pas peur de la guerre. Mais pourquoi il ne se rend pas encore pour porter le message de cette population aujourd'hui, du reste de cette population malienne, à la population de Bayangara, pour au moins les rassurer, à la population de Bankassi, de Koro, pour les rassurer.
Okay.
Et ça, il doit le faire. Mais pour finir, j'ai dit encore, je reviens sur une partie du discours de cette marche patriotique, où il disait qu'on dise effectivement la vérité. Parce que la population pense en réalité qu'on leur cache quelque chose. Parce qu'ils disent même dans ce même discours-là, okay, que les nids sont connus. Les nids des terroristes sont connus. Qu'on dise finalement la vérité. Ça, on doit pouvoir vraiment prendre ce message, lire entre les lignes de ce message, pour que les autorités puissent en profiter.
D'accord. Oui, Ami Babassissé.
Juste ajouter quelque chose. Aujourd'hui, on parle de Bayangara. Ce n'est pas seulement Bayangara. Massina, Diafarabé, ça c'est des endroits tellement infestés. On va plus loin, vers le nord, Diré, une bonne partie de cette zone, vers Niafunke aussi. Là, souvent des gens m'appellent, sauf que je refuse, parce que j'aime pas trop évoquer ces choses-là sur les réseaux sociaux. Mais les gens pensent que nous sommes en relais. C'est vrai, je fais remonter souvent l'information à un certain niveau. Mais ce n'est pas que l'autorité ne peut pas. Je les déplore tout de suite. Là où nous sommes aujourd'hui, Ibeka est parti combien de fois sur le terrain? Mais à chaque fois, ça s'aggrave. À chaque fois qu'Ibeka vient, c'est pire. Donc, il faut peut-être les Assimi veulent éviter la même chose. Parce que je l'ai dit, Sadio est parti. Quand Sadio est parti, ils ont dit qu'il n'y aura plus une situation pareille. Mais pourtant, il y a eu des situations encore plus graves que Songo.
Okay.
Donc, ce sont des choses qu'il faut éviter. Maintenant, moi, je sais que même si vous amenez Donald Trump ou Biden ici, cette affaire de terrorisme, ce n'est pas du jour au lendemain. Certains ont essayé de faire croire à l'opinion que voilà, si c'est fini, qu'en 6 mois, ça n'est terminé, qu'en une année, on va gérer ça. Et on se retrouve en face de la réalité. Donc, je crois bien que, pour l'instant, allons-y comme tout le monde le dit, il faut négocier.
D'accord.
Chacun a une mission à jouer.
D'accord.
Et il faut qu'on passe par ces canons-là.
D'accord. Chacun a une mission à jouer. Il faut passer par ces canons. Ceci nous conduit au second sujet de ce débat qui va se pencher sur le congrès du Haut Conseil islamique. Oui, ça bloque car ce congrès qui avait été initialement prevu pour le 26-27 octobre a été reporté pour le 9 et 10, laquelle date, comme je le disais dans les propos introductifs aussi, ont été reportés pour une autre date qui n'a pas été communiquée. Qu'est-ce qui bloque justement la tenue de ce congrès? Je vous propose déjà de suivre cet élément réalisé par Makan Fofana.
Le Haut Conseil islamique du Mali s'enlise. La fêtière des associations islamiques peine à organiser son congrès ordinaire au cours duquel un nouveau président sera élu. Initialement prévu pour le 26 et 27 octobre 2024, le congrès avait été reporté au samedi 9 et dimanche 10 novembre. Finalement, il est de nouveau ajourné. Même si rien n'a été officiellement annoncé, le vice-président du bureau national, Mohamed Makiba, a confirmé les reports, ajoutant que le bureau prévoit de se réunir ce samedi avant de se prononcer sur les raisons et la nouvelle date de l'Assemblée. Selon plusieurs observateurs, les raisons de ces reports sont le manque de consensus chez les candidats. Ils sont 11 leaders à vouloir conduire les destinées du Haut Conseil. Les grands favoris sont le président sortant Chérif Ousmane Madane Haïdara et Cheikh Soufi Bilal Diallo. À défaut d'un consensus, les textes de l'organisation prévoient de procéder à un vote pour élire les bureaux. Ce blocage pourrait s'expliquer par la volonté des partisans du président sortant Chérif Ousmane Madane Haïdara, de le maintenir à son poste, alors que d'autres associations fustigent sa gestion, notamment son inaction, face à des atteintes aux symboles et à l'image de l'islam.
Oui, c'était là un élément réalisé par Mankan Fofana pour le report du congrès du Haut Conseil islamique. Amin Baba Cissé n'est pas dans le secret des yeux, mais certainement qu'il en sait quelque chose par rapport à ce report ou cet autre report du congrès du Haut Conseil islamique, M. Amin Baba Cissé.
Vous savez, M. Traoré, il faut s'inquiéter pour ce pays. Et ça, c'est l'un des signaux malheureux et dangereux qui illustre la décadence même de notre pays. De tout le temps, c'est l'un des piliers sur lesquels le Mali s'est toujours reposé. Quand ça n'allait pas, c'était ces gens-là qui intervenaient pour mettre tout le monde d'accord. On prend l'histoire d'abord par rapport au premier mandat du Haut Conseil islamique. Je me rappelle bien à l'époque, nous, on était à une conférence où l'actuel, ou bien plus ou moins l'ancien président Ousmane Chérif Madane Haïdara, disait qu'il n'a été ni preneur ni demandeur, qu'il n'a jamais voulu faire acte de candidature à la tête du Haut Conseil et que c'est des gens qui sont venus le solliciter qu'il a accepté. Même à l'époque, on sait que le président de l'époque, paix à son âme, et toute son équipe sont intervenus pour que ça puisse être géré. Mais aujourd'hui, qui est en train de l'obliger? Il est évident que quand on essaie de voir son bilan, il s'est passé des choses qui n'auraient jamais dû se passer au Mali. Les musulmans, on peut le sentir et le comprendre aujourd'hui, sont très attristés par rapport à un certain nombre de pratiques qui ont touché l'islam. Ça, ce sont des faits. Le gouvernement a même fait des communiqués pour dénoncer. Et même, ils ont voulu intervenir. Il y a eu des marches, des dénonciations. Mais sauf que c'est devenu une guerre de tranchées aujourd'hui. Ce n'est pas seulement le fait que Haïdara n'a pas réussi à dénoncer. Parce qu'il y a une posture que certains aimeraient qu'ils prennent. Parce que dans toute religion, souvent, il y a des gens qu'on appelle des extrémistes. Lui, il n'est pas de ce genre. Il n'est pas trop extrémiste. Mais sauf aussi qu'il n'a pas tapé du poing sur la table. C'est une puissance. Cette religion, ses partisans sont des gens courageux et des gens audacieux. C'est vrai, on a menacé. Quand on a marché sur le Coran ici, on a vu des gens se retrouver à la grande mosquée de Bamako pour dénoncer et même intimider l'État. On a menacé l'État dans ce pays-là. Lui-même, il a dit, il n'y a pas d'autorité dans ce pays. À un moment donné, il prend position. Sauf que là où il doit prendre position, ce n'est pas le cas. Là où il a pris des positions, ce n'était pas directement par rapport à la religion. Et quand on prend position, c'est jusqu'au bout. Okay. Mais l'État n'a pas bronché. Maintenant, là où nous sommes, okay, on a parlé d'argent. C'est vrai qu'il y a des moyens techniques et financiers pour pouvoir organiser ce congrès-là. Ce n'est pas l'argent qui manque. Même le président du Haut Conseil, il a les moyens de le faire. Il a les relations pour le faire. Je ne pense pas que ce soit ça. C'est une raison qui ne tient pas. La deuxième option, on nous parle de consensus. À partir du moment où il y a des textes pour aller à une élection, là, peut-être que le consensus au début, si ça n'aboutit pas, on va directement au vote. Ça aussi, ce n'est pas une explication qui tienne. Donc, il y a des non-dits et je sais quand même qu'il y a des tendances, à commencer par Soufi Bilal, qui de tout le temps, même le premier mandat, il a été direct. Il n'est pas du tout d'accord. Et puis, le bilan même de Haïdara lui ouvre encore une porte pour être encore plus candidat. Maintenant, il faut aller aux élections. Mais sauf que je suis déçu de voir que ces gens qui, en longueur de journée, disent aux gens, à Essabali, des gens qui disent, s'il vous plaît, entendez-vous, n'arrivent pas eux-mêmes à le faire. Donc, ils n'auront plus de leçons à donner aux autres.
Ok, ils n'ont plus de leçons à donner aux autres. Est-ce que c'est une situation, M. Soumano, hein, comme Abou Baba Cissé, que vous doublerez également?
Bon, vous savez, le Haut Conseil, pour moi, il y a beaucoup de choses à prendre, notamment en termes de sagesse. Parce que c'est quand même une organisation de référence pour nous, pour les jeunes en tout cas. Et pour moi, aller au vote, élection, ne serait pas la solution à ce problème-là. Ça va plutôt aggraver. À chaque fois qu'il y a eu des tensions comme ça, moi je prends, juste chaque fois qu'il y a eu des crises ou il y a eu une élection, ça constate la déstabilisation de la structure.
Okay.
Pour moi, le consensus doit prévaloir. La seule solution aujourd'hui que je veux leur proposer, c'est d'aller vers le consensus. C'est vrai que le texte prévoit le vote, mais je déconseille le vote. Parce que...
Et s'il n'y a pas de consensus?
Non, je dis, il peut avoir le consensus et il doit avoir le consensus. Pour moi, il peut avoir le consensus et il doit avoir le consensus.
Mais si vous optez pour la non-tenue du vote, qu'est-ce que cela sous-entend? Est-ce qu'il faut confirmer le shérif Moudane Haïdara comme étant le président à vie du conseil?
Non, le consensus, ce n'est pas forcément aller vers le maintien du shérif. C'est ce que les gens voient.
Okay.
Pourquoi? le consensus peut aller vers autre chose.
Okay.
Et regardez, moi je prends deux exemples. Prenons le cas du Conseil national de patronat. Il y a eu une guerre, il y a eu même une guerre judiciaire, je puis dire, parce qu'il y a eu des deux parties qui
se sont... C'est différent. Hein.
Non, je prends juste un exemple. Je ne pas dire que c'est la même chose.
Okay.
Mais finalement, on arrivait à quoi? La solution n'était pas au niveau des tribunaux. C'est un consensus qui a été... Et c'est un candidat, si je peux dire un troisième de la banque, qui est arrivé par la tête. Donc, c'est pour vous dire que quand on parle de consensus, ce n'est pas forcément dire que la solution sera pour X ou Y.
Okay.
La solution, c'est ce qui pourra fédérer tout le monde.
D'accord.
Et moi, les votes n'ont jamais réglé la question. On vit le même problème avec le Haut Conseil des Malais de l'Extérieur de France, où il y a eu le vote, et jusque-là, les gens ne sont pas attendus.
Mais finalement, si vous parlez du problème, ça veut dire que le problème est reconnu. C'est quoi alors le problème?
Non, le problème, c'est que... Pour moi, c'est toujours encore le dialogue. Se comprendre, s'asseoir, discuter. C'est
mais le fond du problème, qu'est-ce qui bloque la tenue du Congrès,
M. Soumano? C'est normal. Les gens, tout le monde a l'ambition, peut avoir l'ambition de vouloir briguer la présidence d'une structure dont tu es membre. Ça, c'est clair.
Okay.
Pour moi, ça fait partie de la nature humaine. Mais à un certain moment donné, on regarde le contexte. On regarde non seulement la nature des enjeux, etc. Donc, moi, je suis quand même irresponsable. La chose qui m'a permis de faire passer les solutions, en tout cas de pouvoir atteindre un certain nombre d'objectifs, c'est parce que j'ai toujours essayé d'éviter le problème de leadership. Et ce problème de leadership, c'est le dialogue. Je m'ouvre aux critiques, je dis ok, je suis preneur de critiques,
d'accord,
et essayons de voir comment faire. Mais d'accord, aujourd'hui, si on va vers le vote,
okay,
parce que n'oubliez jamais que le perdant peut toujours avoir son dernier mot à dire. Et comme aussi celui qui est là peut aussi ne pas, diriger sans l'appui du second.
Okay.
Donc, pour éviter tout ça,
okay,
je pense que les uns et les autres, là j'ai dit que c'est un livre de sagesse. Ils ont beaucoup de choses à nous apprendre, surtout la sagesse.
D'accord.
Parce que la sagesse islamique veut dire qu'il faudrait respecter en tout cas son aîné.
Oui, la sagesse, selon l'islam, en tout cas, c'est sacré. Monsieur Abdallah Yattara, ce sont des hommes qui, en tout cas, sont censés être, en tout cas, des hommes épris justement d'humilité. Mais avec cette situation, ce report, ce double report du Congrès, de la tenue de ce Congrès, comment le comprenez-vous?
D'abord, ce report n'est pas la première dans le Congrès Haut Conseil islamique. Vous comprenez, le Haut Conseil islamique a été créé en 2001. C'était suite à une journée de réflexion, parce qu'après la révolution de 1991, où seul l'AMPI existait, il y a eu une floraison d'associations islamiques. Donc à l'époque, c'était Ousmane Sy qui était le ministre de l'administration territoriale. Donc avec toute sa sagesse, il a demandé d'organiser une journée de réflexion et pour pouvoir trouver une solution à ça. Et c'est lors de cette journée de réflexion qu'est née l'idée du Haut Conseil islamique et de la médiation du Hajj et aussi de la commission d'observation de la Lune aussi. Donc le premier congrès constitutif, c'était en 2001. Donc c'était 5 ans de mandat. Mais le premier congrès ordinaire, c'était en 2007. Et le deuxième congrès ordinaire, c'était en 2013. Donc chaque fois, il y a un an ou plus d'un an de report. Et le troisième congrès ordinaire, c'est en 2019. Comprenez, 2013-2019, c'est encore plus de 5 ans. Ce n'est pas la première fois que ça va au-delà du mandat.
D'accord.
Donc nous sommes aujourd'hui dans la préparation du quatrième congrès ordinaire. Effectivement, c'était prévu pour le 29 octobre, je crois, 29-30 octobre. Après, ça a été reporté pour le 9 et 10 novembre. Et je crois qu'on est encore pour un report pour une date ultérieure. Mais il faut se rendre à l'évidence qu'il y a de cela 6 mois, le président du Haut Conseil islamique a fait une réunion extraordinaire où toutes les structures, toutes les composantes du Haut Conseil islamique étaient là, à savoir le bureau exécutif national, le Conseil national de contrôle, le Conseil national de contrôle, le Comité national de contrôle, le Conseil des oulémas et le président d'honneur et le Conseil des sages. Et il a été décidé lors de cette réunion que toutes les structures, de la base au sommet, soient mises. Et par consensus, ça a été décidé. Pas de vote par consensus. Effectivement, de la base jusqu'au niveau district,
okay,
tout a été mis par consensus. Mais au niveau du bureau national, maintenant, c'est là où se pose le problème, où il y a eu une floraison de candidatures. Et c'est vrai, ils ont parlé de moyens financiers. Effectivement, le Congrès est financé, toujours financé à 100% par l'État. Toujours financé. Et le siège même est donné par l'État. C'est financé à 100% par l'État. bien vrai qu'effectivement, il n'y a pas de ligne budgétaire pour le Haut Conseil islamique au niveau du budget d'État, mais c'est une convention qui est là, qui stipule que le siège et le congrès toujours soient financés par 100% par l'État.
D'accord.
Donc il n'y a pas de question de... c'est peut-être si le problème financier, c'est au niveau de l'État, c'est pas au niveau... Mais effectivement, il a dit, beaucoup d'hommes au sein de cette religion peuvent financer à 100% ce congrès sans passer par l'État. Ça, c'est à commencer par le président même Ousmane Sérimbara, etc. Et peut-être qu'il peut attendre l'État de l'argent de bonne foi, mais lui-même, il a son seul moyen, c'est ses moyens qui peuvent lui permettre de financer ce congrès-là aujourd'hui. Maintenant, le problème qui se pose aujourd'hui, est-ce qu'il y aura consensus? Moi, je trouve très honnêtement qu'il faut aller vers ça.
Okay.
Il faut aller vers ça pour éviter encore une nouvelle crise. Et à cette crise multidimensionnelle que nous connaissons depuis 2012, il ne faut pas qu'il s'ajoute à cette crise multidimensionnelle, okay, une autre crise,
d'accord,
et qu'il cherche le consensus, que l'État même veut s'impliquer là-dedans. Et je suis même d'accord pour ça, mais qu'on aille vers le consensus.
Ok, monsieur Amiba, si c'est qu'on aille vers le consensus, il parlait de crise, hein, qu'il faut éviter à tout prix cette crise. Mais est-ce que nous ne sommes pas déjà dans une crise dans cette affaire?
Tout à fait, nous sommes déjà dans une crise qui n'a pas commencé aujourd'hui. Si vous sentez même, moi je déplore que, c'est vrai, Haïdra a été élu, il a parlé de 2019, Ibeka s'est impliqué, même 2013 là, à l'époque avec Diko, Ibeka s'était impliqué. Le pouvoir a toujours eu son candidat, le pouvoir a toujours soutenu quelqu'un, sans ouvertement le dire. Maintenant, il y a eu Haïdra qui a été élu en 2019, mais sauf qu'il n'a pas été élu, parce qu'à la rigueur, quand vous voyez Haïdra, il y avait... certains leaders religieux qui sortaient tout le temps pour s'en prendre à lui. Certains faisaient même des vidéos pour l'insulter ouvertement. Chaque fois que l'islam est attaqué, au lieu que ce soit lui, il y a des gens qui prennent déjà des positions. Maintenant, la crise dans laquelle nous sommes, il vient de le souligner. Je ne suis pas tout à fait d'accord que ce soit seulement par consensus. Parce qu'il faut qu'on soit focus sur les textes. Les textes disent quoi? Il y a élection, il y a un mode quand même pour désigner quelqu'un. Si on n'arrive pas à s'entendre, on ne peut pas repousser ça parce qu'il n'y a pas eu de consensus. Il y a eu consensus dans le mandat précédent, mais pourtant ça n'a pas abouti. Les gens sont restés en retrait. On a laissé le monsieur pratiquement échouer parce que moi je pense que franchement, il n'a pas posé d'acte glorieux au nom du Haut Conseil islamique. Peut-être c'est sa façon, parce que souvent il faut avoir de la poigne. Diko par exemple, les gens le qualifiaient de tout, mais quand même, quand Diko parlait, il était écouté. Mais Haïdra, c'est vrai, il a parlé, mais il n'est pas... Parce qu'on sait que, de par sa position, de par sa posture, il est difficile que Haïdra mette les gens dans la rue. Il est difficile qu'il aille à un certain niveau contre le pouvoir ou bien contre quelques situations que ce soit. C'est ce qui fait que souvent, il est un peu limité. Mais là où nous sommes aujourd'hui, le consensus, c'est une option, je suis d'accord avec ça. Mais il faut qu'on aille à l'élection, il faut qu'on vote. Ce n'est pas les Maliens qui votent, ce n'est pas les musulmans qui votent, sinon là, Haïdra allait gagner à 1000%. Mais là, ce sont des responsables religieux qui votent, des associations qui votent. C'est très facile de trancher ça.
Okay.
Maintenant, si on perd, tu vas démarcher les autres pour essayer de ramener tout le monde à la raison.
D'accord. Cheikh Oumar Soumano, cette situation que vit le Haut Conseil islamique aujourd'hui, est-ce qu'il y a des inquiétudes à se faire?
Non, il ne faut pas, justement, moi, il faut pas arriver au vote. Parce que quand on arrive au vote, c'est là où je pense que je me ferai des inquiétudes. Et je comprends, le texte ne réglige pas tout. Là, je l'ai toujours dit, les lois, les textes sont source de résolution des conflits, sont instruments de résolution des conflits, mais en même temps, c'est des sources de conflits. Il faut faire attention. Donc, ce qui est important, même dans le consensus, il y a un vote. Parce qu'il faudrait écouter les gens, faire taire les divergences.
Okay.
C'est ça qui nous amène à une vision. Peut-être ceux qui pensent que ce consensus que les uns et les autres appellent de leur vœu, c'est pour peut-être maintenir. Ils peuvent se tromper. Ça peut ne pas être ça.
Okay.
Ça peut aussi être de voir émerger un candidat consensuel,
okay,
qui n'est ni les 11, encore moins la présidente actuelle. Donc, voilà pourquoi c'est toujours bien d'aller vers le consensus, même au niveau international. Il y a certaines décisions, même si c'est écrit noir sur blanc,
okay,
qu'il faille aller vers l'unanimité pour son vote, pour la prise de cette décision-là.
Okay.
Mais c'est souvent le consensus qui prévaut. On ne passe pas par l'unanimité, mais on passe par le consensus. Parce que le consensus, c'est quoi? C'est qu'on prend compte les préoccupations des uns et des autres. On dit, on va vous rassurer, il n'y a pas de souci, mais ils ne vont pas voter contre.
Okay.
Or, si on parle de l'unanimité, il faut que tout le monde dise oui. Mais ce n'est pas aussi clairement dit que si on prend une décision par unanimité, que ça fait aussi l'unanimité. Parce que Ibeka a été nommé, a été élu avec 78%, même si ce n'est pas l'unanimité, c'était la majorité absolue, mais après on a vu ce que ça a donné. Donc moi je pense que le consensus doit prévaloir,
okay,
je le dis, doit prévaloir. Et je sais qu'ils ont, ils ont les forces, ils ont l'humilité, ils ont la sagesse d'arriver à ça. D'accord. Je pense que c'est ça aussi qui doit être leur leitmotiv de mon point de vue.
D'accord. Monsieur Abdallah Yattara, puisque vous dites que le siège offert en tout cas par l'État et que le Congrès est à 100% financé par l'État, est-ce que l'État aujourd'hui peut avoir une marge de manœuvre dans la résolution de la crise qui sévit aujourd'hui dans cette institution qui est le Haut Conseil islamique?
Forcément, l'a dit, forcément, pratiquement chaque président du Haut Conseil islamique est pratiquement pas élu, mais imposé par l'État. Ça, on le sait. Vous comprenez? Si la crise.
Imposé par l'État, cela veut dire que le Haut Conseil islamique n'est pas autonome?
Non, pas autonome, parce qu'Antoine est toujours au service de l'État. Et si c'est comme ça, l'État préfère toujours que le Conseil islamique soit de son côté pour éviter cette éventuelle crise. Vous comprenez? Et c'est pour cela, généralement, l'État intervient pour que ça pèse la tension et qu'on puisse avoir un candidat consensuel et qui, généralement, est le candidat de l'État aussi, il ne faut pas se le cacher. Mais le mode de fonctionnement même du Haut Conseil islamique a fait qu'aujourd'hui, pratiquement, vous m'excusez les termes, on est dans, entre guillemets dans cette pagaille-là aujourd'hui. Parce que tout simplement, le Haut Conseil islamique n'a pas appliqué à la lettre les textes même concernant les associations qui doivent voter. Parce qu'il est dit dans les textes comme quoi, pour être reconnu par le Haut Conseil islamique, il faut d'abord être à jour de sa cotisation mensuelle pendant les 5 ans. Il faut aussi avoir un compte bancaire. Il faut avoir un siège, il faut déposer un rapport chaque année au niveau du gouvernorat et au moins être représenté dans au moins 50% des régions.
D'accord.
Ce n'est pas le cas. Ils ont dit, ils ont ramené toutes ces conditions au minimum, au strict minimum. Et le strict minimum, c'est quoi? Le jour du congrès, il faut payer 100 000 francs et amener son récépissé. Et ça, c'est le récépissé aussi des types nationaux. Parce qu'il y a deux catégories de récépissés, comme eux-mêmes le disent. Il y a l'association de récépissés de type national, délivré par le gouvernement ou le ministère de l'Action culturelle, et l'association de type local, qui est délivrée par les préfets, les sous-préfets ou autres. Donc, ces associations de type local ne sont pas concernées. C'est uniquement les associations de type national dont le récépissé est délivré par le gouvernement et par le ministère de l'Action culturelle qui sont reconnus par le jury commun. Il faut qu'eux-mêmes, à partir de ça, qu'ils soient à cheval sur les textes, qu'eux-mêmes s'imposent certaines conditions pour que le jour même du congrès, il n'y ait pas de, on puisse pas venir à des situations comme ça. D'accord. C'est triste de le dire. Ils l'ont dit effectivement mes prédécesseurs et c'est nous que nous voyons, c'est eux que nous voyons pour pouvoir résoudre les conflits, pour éteindre les feux. Mais si aujourd'hui les feux sont dans leur maison, nous aussi on va où?
Prions Dieu que la sagesse prévale dans la résolution de cette crise que vit aujourd'hui le Haut Conseil islamique. On va partir aux États-Unis pour revenir sur le retour du président Donald Trump, nous l'avons dit, qui avait occupé la Maison-Blanche entre 2017 et 2021. Oui, le comeback du président Donald Trump, ce n'est plus un secret car il a quand même été élu. Voilà. Et justement, le président Donald Trump que vous voyez ici en image, justement, quel impact pour l'Afrique avec ce retour du président Donald Trump à la Maison Blanche. Chokomar Soumano, déjà un mot pour cette réélection du président Donald Trump, rapidement.
Déjà, bravo pour le peuple américain d'avoir encore une fois s'affirmer comme étant un modèle de démocratie. Vous savez, quand on regarde le comeback de Trump, ça nous dit effectivement que les institutions sont fortes aux États-Unis. Et un président qui a fait un mandat, généralement quand les présidents sont élus aux États-Unis, c'est, ils font les deux mandats, ils partent pour de bon. Mais un mandat, un président qui vient pour un mandat, qui se fait battre et qui, après il y a eu beaucoup de scandales, et qui revient par la voie des urnes, et après beaucoup de tumultes, parce qu'on a vu tellement de choses qui sont passées pendant la campagne, et qui a carrément quand même battu la candidate, même si ce n'est pas le président sortant, mais bon, on pourra dire parce qu'elle était quand même vice-présidente, ça veut dire que c'est l'élégance de la chose. Et ça confirme encore une fois que les institutions sont très fortes aux États-Unis. C'est ça l'avantage d'avoir des institutions fortes, parce que la démocratie aussi, ce qu'on recherche, c'est l'alternance.
D'accord.
Donc il y a eu des choses qui n'ont pas marché pendant l'administration Biden, pendant la gouvernance Biden. Et je pense que Trump aussi, pendant les 4 ans qu'il a passé à la tête des États-Unis, il y avait eu des choses qui n'avaient pas marché. Et c'est à cause de ça qu'il avait perdu les élections.
Okay.
Et il fait un comeback sur la base de l'amélioration qu'il propose. Mais sauf qu'aujourd'hui, si on regarde son discours, il va s'attaquer déjà aux immigrés qui sont en situation irrégulière. Parce qu'il a dit, dès que je parle le lendemain, je mets bon.
Ça a été toujours son combat.
Oui, je pense qu'il est sincère en le disant. Il est sincère en le disant. Et ça va aussi confirmer que beaucoup d'Américains sont dans cette logique-là. Vous savez, Trump, c'est quelqu'un qui n'est pas hypocrite. Il y a quelqu'un qui dit ce qu'il pense. Et qui pense, il dit ce que pensent la plupart des Américains. Bon, c'est vrai que nous avons une forte communauté afro-africaine et tout, afro-américaine, je vais dire, mais notons que quelque part, ça doit faire peur à nous, les Africains.
Okay.
Et c'est clair également, je ne sais pas si il va faire une extrapolation, durcissement des conditions d'accès au territoire à travers les délivrances des visas, parce que ça aussi, il y a des gens qui ne sont pas aussi intéressés d'aller vivre aux États-Unis, okay. mais qui ont besoin d'aller visiter.
D'accord.
Est-ce qu'il y aura un impact
okay.
sur, donc je l'espère qu'il okay. ne va pas quand même toucher, en tout cas, il ne va pas durcir les conditions
Très bien.
De livrance.
Amba Sissé, comment voyez-vous ce retour du président Donald Trump à la Maison-Blanche?
Non, je crois comme il a dit, c'est une leçon. Et regardez comment Donald Trump a quitté le pouvoir. Ensuite, on l'a vu lors de ces 3 ans d'intervalle-là. Il a passé devant combien de tribunaux en train de se faire notifier des chefs d'accusation qui ne sont jusqu'à présent pas au bout de leur fin. Et démocratiquement, il revient laminé. Parce que moi, je ne dis pas qu'il a bâti. Il a laminé la dame malgré tout ce qui s'est raconté. Je sais que si c'était Joe Biden, ça allait encore être plus facile. Mais la dame... pratiquement, elle est différente de Joe Biden, de Trump. Trump, c'est quelqu'un qu'on connaît. C'est un label qu'on connaît déjà. Comme vous l'avez dit, il a déjà fait un mandat. Les gens le connaissent, ils connaissent sa mentalité. Mais sauf que, en matière de politique, on ne parle pas d'hypocrisie. Il a dit beaucoup de choses qu'il ne peut pas faire. Il a dit que quand il sera élu, avant même l'investiture, qu'il va mettre fin à la guerre en Ukraine. Tout le monde sait que ça, c'est des choses, c'est des discours. Dans la réalité, ça va être autre chose. Il y a des positions qu'il ne peut pas changer. Au contraire, Joe Biden même est venu en dénonçant des choses. Parce que c'est une sanction qui est là. Quand il a été élu en 2017, je parle de Trump, il y a des choses qu'il a annoncées qu'il n'a pas pu faire. Il a été sanctionné pour ça. Okay. Et les Joe Biden, c'est la même chose qui s'est passée. Okay. Ils ont dit des choses, au contraire, ils sont même venus soutenir des choses, d'où l'immigration. Ils sont venus soutenir des choses que Joe Biden et l'autre condamnent, l'autre dénonçaient. Donc je pense que c'est une leçon qui est là. Maintenant, par rapport à l'Afrique, vous avez vu, vous avez suivi la campagne, on ne prononce même pas l'Afrique. Les intérêts pour l'Amérique, c'est la Chine, c'est la Russie, c'est l'Europe. Ce n'est pas l'Afrique. Peut-être que par coup de chance, quelque chose peut-être vous profiter sans que ça ne soit ouvertement et expressément décidé. Je sais qu'il y a du respect pour le continent, mais ça ne pèse pas dans l'élection aux États-Unis.
D'accord.
Maintenant, nous sommes en train d'être inquiets, évidemment, parce qu'il y a l'impact. La guerre en Russie, entre la Russie et l'Ukraine, c'est une situation. Les Africains dénoncent ce qui se passe dans la bande de Gaza.
Okay.
Tout le monde sait que Joe Biden... c'est l'homme d'Israël. Il ne va rien changer à ce niveau. Bref, on l'attend sur le terrain. Mais moi, je sais quand même qu'il y a des choses qu'il peut faire. Mais il y a des choses...
Trump,
ok. D'accord.
D'accord. Oui, justement, ce retour de Donald Trump, comment le voyez-vous, M. Abdelayatara?
Une victoire très, 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 très facile quand même. J'ai beaucoup suivi les dernières élections américaines, mais que le résultat soit connu, malgré les décalages horaires entre les États, que le résultat quand même soit connu avant que certains États même donnent leurs grands électeurs, je crois que c'était déjà fini.
Okay.
Et donc, c'était ça un peu la surprise, parce que même peut-être si on donnait Trump gagnant, c'était pas quand même avec une telle facilité. Quoi.
Mm-hmm.
Voilà. Mais Trump, par rapport à l'Afrique, qu'est-ce qu'il faut attendre? Son premier mandat, il n'a jamais foutu pied dans aucun pays africain. Ça, c'est clair. Hormis sa femme, qui est venue une seule fois en Ouganda. Et là, même une visite très critique où elle portait le chapeau des colonisateurs. Donc, ça a été une visite très critique. Mais pendant ces 4 ans, il n'a jamais venu. Il n'a foutu pied en Afrique aussi. Et sa politique africaine, il est très loin de la politique africaine. Parce que pour son premier mandat, tout ce qu'on a retenu, c'est qu'il a poussé Kabila vers la poste. Les diplomates ont poussé Kabila un peu vers la sortie. Et ça, c'est clair. Et aussi, il a exigé de l'Éthiopie, plutôt du Soudan, le paiement de 300 millions de dollars pour pouvoir dédommager les victimes américaines en effaçant le nom du Soudan dans la liste des États terroristes. voyez-vous, donc ça n'a pas trop d'impact. Mais seulement qu'on se soucie un peu de nos compatriotes, vu qu'il va un peu, peut-être encore durcir les conditions d'obtention de vitesse et les conditions de séjour aussi. Okay. Là, on espère bien qu'il y aura la main plus légère pour permettre à nos compatriotes de bien vivre.
Très bien. Rapidement, M. Soumanou, nous sommes quasiment à la fin de ce débat. Il est vrai que lors de la campagne, nous avons vu un débat télévisé entre la candidate Kamala Harris et Donald Trump. Il n'a jamais été question de l'Afrique. Quel enjeu, justement, pour l'Afrique avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche?
Non, mais même si l'Afrique n'a pas été citée, je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui parler sans l'Afrique. Les Africains, je vous ai dit, il y a beaucoup d'Afro-Africains, d'Afro-Américains qui sont dans l'administration, enfin, qui sont dans l'équipe, qui étaient dans l'équipe plutôt de part et d'autre, aussi bien de Trump, mais également de Kamala Harris. Okay. Mais pour moi, il y aura des actions.
Okay.
Aujourd'hui, si... Peut-être l'une des erreurs de Trump, c'était d'avoir évité l'Afrique. Moi, je veux vous dire, j'étais aux États-Unis il y a deux mois, au mois d'août, et il y a eu déjà un État qui cherche à s'intéresser en Afrique. Et moi, j'ai été effectivement choqué de voir que, difficilement, je suis parvenu à citer 3 ou 4 entreprises américaines au Mali. Quand on m'a posé la question, j'ai eu du mal à pouvoir citer 3 ou 4 entreprises. Et ça montre que même nous, Africains, enfin Maliens en général, on ne connaît pas trop le rapport. Mais avant ça, ce qui les intéresse, c'était tout ce qui était le côté agriculture,
okay.
Et puis les mines.
D'accord.
Et je pense que Donald Trump est un homme d'affaires,
okay.
Parce que c'est quand même un businessman avant tout. Et le Mali aujourd'hui, c'est vrai, un des pays qui sont de crise, okay. Offre plus d'opportunités hein, que des pays déjà saturés.
Okay.
Donc je pense que, en tout cas, il y a certains États, notamment au Texas également, j'ai vu, pas au Texas, plutôt à l'État de Nevada, Las Vegas, il y a eu aussi des hommes d'affaires maliens cette année qui sont déplacés,
okay.
Pour aller faire des rencontres sur l'assainissement et sur les mines.
D'accord.
Donc j'ose espérer que, au moins, ne serait-ce que pour ces aspects, pour le Mali,
d'accord.
Il y aura des investisseurs américains qui vont venir
d'accord.
S'intéresser à notre pays.
D'accord. Monsieur Ami Bassizé, rapidement, en quelques secondes, que peut espérer l'Afrique avec cette réélection du président Donald Trump?
Bon, espérer, comme il l'a dit, qu'il va mettre fin à la guerre en Ukraine. Si cela se fait, je pense que les effets négatifs que nous vivons d'ici peuvent être atténués. C'est un premier aspect. Le second aspect, même si je n'y crois pas trop, l'Afrique avait demandé 2 places au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Sauf que jusqu'à présent, l'option que ça soit avec droit de veto n'est pas acceptée par les autres. Parce que si vous arrivez à avoir le droit de veto, vous pouvez bloquer certaines décisions. On peut peut-être vous y autoriser à siéger, à proposer des choses. Donc, est-ce que Donald Trump ferait cela? Je pense que, tel que je le connais,
okay.
Il n'oserait pas.
Il n'oserait pas. Abdallah, en 30 secondes, le mot de la fin.
En 30 secondes, c'est vrai que je pensais un peu démocrate, mais Donald Trump me rassure quand même.
Vous êtes en bleu.
Non, pas. Parce qu'en réalité, la crise que nous traversons ici aujourd'hui, cette crise multidimensionnelle, ce n'est pas la faute des démocrates qui okay. Se sont fait entraîner par Sarkozy pour pouvoir bombarder la Libye et semer toute la pagaille qui existe aujourd'hui dans notre Sahel aujourd'hui.
Okay.
Bon, je crois que c'est quelqu'un qui, peut-être les gens, mais moi je crois qu'il est très honnête.
Okay.
Très honnête de par ses paroles.
D'accord.
Et je crois qu'il va être d'un soutien pour la fin de la guerre au Sahel.
On l'espère aussi. Hein. Sissi va mettre fin à ce débat. Avant de se quitter, nous avons une pensée à notre confrère Youssouf Cissokho, le directeur de publication et fondateur du groupe Alternance qui est malade de ces derniers temps. Nous le souhaitons en tout cas prompt rétablissement. Meilleure santé, cher ami. Revenez-nous, car nous avons besoin de toi. Vous avez votre place ici, en tout cas dans ce QG de l'actualité. Deuxième message, c'est justement des messages de vœux aussi à l'endroit de notre collaboratrice Salimata Ouedraogo qui a convolé en juste noce aujourd'hui dimanche. Hein. Voilà, nous le souhaitons heureux ménage et voilà, nous le souhaitons plein succès. Ceci met fin à ce débat d'aujourd'hui qui avait comme invité Ami Baba Cissé, directeur de publication du Figaro du Mali, j'allais dire fondateur, mais aussi journaliste et le président du groupe de la radio Sahel, j'allais dire merci à vous, monsieur Ami Baba Cissé. Deuxième invité de ce débat, Cheikh Omar Soumanou, coordinateur du baromètre, président de l'organisation des jeunes patrons du Mali et du Sahel. Merci à vous aussi, monsieur Soumanou. Troisième invité, Abdallah Yatra, consultant formateur, membre du parti Yélema. Merci à vous, Abdallah, et à dimanche prochain dans votre émission, le QG de l'actualité. Et d'ici là, vous nous retrouverez dès demain lundi à 10h pour la première diffusion. Une seconde diffusion est prévue pour le mardi à 22h avec toujours l'accompagnement de l'équipe technique dirigée par Augustin Echoubéi, Lamine Koulibaly, Youssouf Sangaré, Moulay Touré, Moussa Haïdara et surtout Salimata Ouedraogo. A très vite. Au revoir.